J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui fait un rêve. Elle veut faire du cinéma, passer derrière la caméra, filmer des corps en mouvement. En classe de terminale, avec son prof de philo, elle a découvert Merleau-Ponty, la phénoménologie. Elle adore cette idée que notre rapport au monde se fait à partir de notre corps et de sa perception. Elle l'aime vraiment bien, ce Merleau-Ponty. C'est lui qui a écrit « Notre corps est pris dans le tissu du monde ». C'est classe quand même comme phrase. Ça y est, c'est décidé, elle fera du cinéma et même, elle aura du cinéma une approche phénoménologique. Mais il y a un truc qui la gêne, qu'au début elle ne remarque même pas, mais à force, elle ne voit presque plus que ça. La première fois qu'elle l'a remarqué, c'est en regardant des séries. Dans ces séries, les femmes n'ont jamais leurs règles. C'est bizarre, se dit-elle. Les règles, ça arrive quand même assez souvent. Ça lui met la puce à l'oreille. Elle commence son enquête. Et les scènes d'accouchement, elles sont filmées comment ? Le plus souvent en vue de très haut, avec le nouveau-né qui se met à crier, le papa très ému et la maman fatiguée. Mais jamais, jamais, on ne perçoit l'accouchement du point de vue de la femme. Elle est pourtant pas mal concernée par l'événement, se dit-elle. Et les scènes de sexe, c'est encore plus drôle. Elles sont quasiment toujours filmées du point de vue de l'homme et de ce qui l'excite. Il y a même cette scène, d'ailleurs dans un de ses films préférés, et ce point de vue de l'homme qui surplombe la femme. Il semble apprécier la manière dont elle se cambre. Mais si on voyait la scène de son point de vue à elle, alors on comprendrait que ce qu'elle a en face d'elle, c'est le mur de la chambre. C'est toute son expérience du monde, la matière même dont elle le perçoit, qui est passée sous silence. Son corps de femme à elle, pourtant, est pris dans le tissu du monde, pour reprendre Merleau-Ponty. Alors ce serait peut-être un peu intéressant de le montrer. Elle devient militante, elle poursuit son enquête. Le cinéma ne nous donne-t-il à voir qu'un regard masculin, un male gaze ? Et le regard féminin, il est où ? En quoi se distingue-t-il du regard masculin ? Heureusement, elle n'est pas seule, elle se découvre des sœurs. Chantal Akerman, Justine Trier, Julia Ducournau, des sœurs qui proposent un autre regard, une autre expérience du monde. Pour en parler ce matin, de cet autre regard et aussi de ce que c'est qu'un bon film, j'ai la joie de recevoir une autrice, réalisatrice, critique de cinéma et prof de fac. Après Sex and the Series et le désormais classique Le Regard Féminin, Iris Bray vient de sortir un très joli livre pour enfants. Quelle joie ! Iris Bray nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons poser une question éminemment platonicienne. Comment on fait pour changer de regard ?
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Iris Bray.
Bonjour.
Alors comment on fait pour changer de regard ?
Ben, je pense que on trouve des œuvres qui nous regardent. Et les œuvres qui nous regardent nous transforment et nous permettent de revoir des œuvres et de les voir différemment. Je pense que c'est notre rapport au monde qui change notre regard.
Oui, bien sûr. Et alors, vous aviez écrit ce livre que j'avais adoré à l'époque, Le Regard Féminin, une révolution à l'écran, dans lequel vous montrez à quel point le cinéma est habité par un point de vue masculin. Alors, vous expliquez bien sûr qu'on peut être une femme et avoir ce regard masculin, être un homme et avoir un regard féminin. Et vous donnez... un test, je pense qu'on peut commencer l'émission par ça, très simple, très intéressant pour savoir si il y a la possibilité d'un regard féminin dans le film, le test de Bechdel. Ça m'a très étonné au début, je me suis dit c'est dingue, parce que c'est très concret, c'est y a-t-il une scène où deux femmes parlent entre elles, deux sujets, qui soient autre chose qu'un homme ? Et s'il n'y a pas cette scène, alors on est mal barré.
Ben, c'était... une première phase de réflexion. Alison Bechdel, en fait, elle a écrit une BD où, justement, on voit deux femmes devant un cinéma qui s'interrogent sur ce qu'elles ont envie d'aller voir et qui se disent, est-ce qu'on peut trouver un film où il y a deux femmes qui ont chacune un prénom et qui parlent d'autre chose que des hommes? Et en fait, il y a assez peu de films qui passent ce test. Après, quand j'ai écrit Le Regard Féminin, j'avais envie de complexifier cette question et vraiment de parler de mise en scène plus que de narration et de se dire comment est-ce que le corps des femmes est filmé. Mais oui, c'était un des tests qui m'a permis à moi d'ouvrir les yeux quand j'étais plus jeune.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans cette jeunesse, vous tombez sur Wonder Woman et vous aimez bien finalement ce film parce qu'au début, elles s'entraînent dans un camp d'entraînement et elles ne sont que des femmes, des guerrières. Et comme elles parlent justement de stratégie, eh bien on a des femmes qui ont des points de vue de femmes sur autre chose que les hommes.
Oui, surtout ce que j'ai aimé avec ce film, c'était l'expérience de la salle. C'est-à-dire que de regarder un film où on sent un mouvement dans la salle de joie, d'adhésion, quelque chose qui se passe, je trouve que c'est assez rare. Et là, j'avais l'impression que cette utopie, de cette, enfin, c'est une île où il n'y a que des femmes ensemble qui sont toutes en capacité d'agir, ouais. Il y avait quelque chose de très réjouissant. Et c'était l'expérience de la salle qui m'a d'abord marquée.
Alors, dans votre travail, donc le regard féminin, il y a beaucoup d'exemples. C'est assez drôle d'ailleurs, à vrai dire, où on voit comme ça tout le temps dans des scènes qui ont l'air de rien, qu'en fait on s'est habitué, mais que c'est un regard masculin. Il y a cette scène de Tarantino, dans quel film déjà, Once Upon a Time in America, où Brad Pitt est au volant de sa voiture, et puis il y a une jolie fille qui lui parle par la fenêtre, et le plan est d'abord sur ses fesses, et puis on voit dans le prolongement la tête de Brad Pitt, et vous montrez comme ça tout le temps que c'est comme ça pour tout. Et déjà on se dit, mais... il faudrait juste rééquilibrer, tout simplement. Mais tout de suite, on se pose une question. Est-ce que ça s'appelle vraiment un regard masculin au sens propre ou un regard féminin au sens propre, ou c'est pas simplement un regard masculin dans cette civilisation-là, à ce moment-là de l'histoire ?
Alors le terme regard masculin, moi je l'utilise en fait de la manière dont Laura Mulvey, qui est une théoricienne britannique, l'a théorisé en 75. Et elle a regardé le cinéma hollywoodien des années 50 ouais. Et s'est rendue compte que pour montrer qu'une femme était désirable, elle était filmée comme un objet et que nous, spectateurs, spectatrices, on était associés au regard du personnage masculin. Donc c'est vraiment, et quand je parle de regard féminin, pour moi, c'est pas le contraire d'un regard masculin, c'est que les spectateurs et les spectatrices peuvent ressentir ce que traverse un regard voilà. Féminin, un personnage féminin. Donc oui, c'est évidemment une question de civilisation, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que le patriarcat a fait à nos regards ? Parce que quand on regarde dans l'histoire du cinéma, et c'est ce qui m'a frappée quand j'ai fait ma recherche pour le regard féminin, c'est qu'au commencement, il y a Alice Guy, et Alice Guy, c'est elle qui fait notre premier film de fiction, là, ouais. Elle nous met du point de vue en fait, des femmes, et des femmes qui vivent dans un monde qui est régi par des hommes. Elle fait un film qui s'appelle Les conséquences du féminisme en 1905. Donc, c'est la matière même cinématographique, elle est imprégnée de cette question-là. Et ça, c'était vraiment important pour moi de le dire. C'est-à-dire que c'est pas mon regard de femme contemporaine féministe qui veut imposer quelque chose. C'est de regarder et de relire l'histoire du cinéma en s'interrogeant sur quels sont les corps qui ont été filmés et comment est-ce qu'ils ont été filmés et quel impact ça a sur nos vies concrètement. Oui, sur notre désir, sur comment est-ce qu'on a construit notre désir.
Oui, notre vision du monde, notre manière de désirer, notre manière de regarder un corps, notre manière de discuter. La femme est, dans cette histoire, le plus souvent femme-objet. Elle est aussi parfois femme-enfant, vous dites ?
Bien sûr. En fait, j'ai aussi co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « La culture de l'inceste », où mon chapitre se consacre en fait à comment est-ce qu'on a la figure de la Lolita a émergé dans le cinéma, ouais. Notamment avec Kubrick, et comment voilà le corps de la nymphette et de la femme enfant Lolita a vraiment imprégné un imaginaire où c'est la jeune fille qui est responsable des actes d'agression sexuelle de la part des parents, des beaux-pères, et donc cette inversion de la culpabilité vient vraiment, pour moi en tout cas c'est ce que je défends, du cinéma.
Alors finalement, en distinguant le regard masculin du regard féminin, vous parlez aussi d'autre chose, c'est-à-dire d'une manière de penser le désir, de penser le pouvoir. Et finalement, donc, je vous lis, le regard féminin, enfin ce que vous appelez comme ça, mais encore une fois, vous le dites vous-même, heureusement des hommes peuvent avoir ce regard-là, le regard féminin propose une autre manière de désirer, je vous lis, hein, qui ne se base plus sur une asymétrie dans les rapports de pouvoir, mais sur l'idée d'égalité et de partage. Est-ce que vous pouvez développer les deux, égalité et partage ?
Il y a une scène, par exemple, dans Titanic, qui ouais. est intéressant, puisque c'est un réalisateur homme, James Cameron, où Kate Winslet ouais. Est nue et il la dessine. Et dans ce rapport-là, elle lui dit « Moi aussi, je te regarde ». Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que on peut désirer l'autre, mais l'autre nous dit aussi « Moi aussi, je te désire ». Donc, il y a réciprocité voilà. du désir, et c'est de sortir, en fait, d'un érotisme qui serait basé sur la domination d'un corps sur l'autre, et de se dire que l'érotisme peut découler aussi d'un rapport plus égalitaire, où chacun se considère comme sujet.
Vous voudriez dire que peut-être l'égalité pourrait devenir érotique ?
Pour moi, oui, c'est vraiment un projet, je dirais, philosophique et politique.
Oui, c'est aussi le projet de Manon Garcia, on avait beaucoup oui. parlé de ça avec elle à ce micro. D'ailleurs, Titanic est réalisé par James Cameron, mais vous expliquez, c'est passionnant, que c'est un film plutôt féministe, avec un regard féminin, notamment parce que la narration depuis le début du film, qui a été rétroactive, vient de la bouche d'une femme.
Oui, c'est-à-dire que le film s'ouvre, on plonge en fait dans l'iris de Rose, qui est cette femme âgée qui va nous raconter ce qu'elle a vécu quand elle avait 20 ans. Et donc il y a vraiment une voix off, il y a tout un processus narratif et de mise en scène pour nous plonger dans l'expérience de Rose et d'être à ses côtés avec elle pendant cette traversée du Titanic.
Ouais. Alors je me fais un peu l'avocat du diable et je me permets, parce que vous aimez la complexité et vous militez pour ça, qu'une femme soit présentée dans un plan comme femme-objet, ne l'empêche pas d'être autre chose que ça. Vous savez que Kant disait « le rapport moral à l'autre, c'est de considérer l'autre toujours comme une fin et pas simplement comme un moyen ». Autrement dit, on peut aussi considérer une femme dans un plan de cinéma comme peut-être celui de Tarantino. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur Tarantino. Je trouve qu'il y a des femmes assez puissantes dans ses films et complexes. Et on peut voir cette femme avec un premier plan, en l'occurrence, là, c'est un peu caricatural, sur ses fesses quand elle parle à Brad Pitt, sans pour autant que ça ne dévore tout son caractère, sans pour autant que ça ne la réduise. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Qu'une femme peut aussi, à un moment, être un objet de désir, sans pour autant que sa complexité soit niée?
Absolument. Je suis d'accord avec ça. Ce qui m'interroge, en fait, c'est la manière dont le regard masculin est devenu un regard neutre. C'est-à-dire, ce qui m'interroge, c'est la paresse, en fait. La paresse des réalisateurs et des réalisatrices pour nous signifier que quelqu'un est désirable de le filmer comme un objet. Ce qui m'interroge, c'est la passivité des spectateurs et des spectatrices face à ces plans. Et en fait, c'est pas tant que l'occurrence d'une fois dans un film, c'est le fait qu'on soit submergé par le regard masculin. Et quand moi j'ai commencé à travailler sur cette question-là, on n'avait pas des outils théoriques pour pouvoir se dire que ce qu'on ressentait n'était pas gratuit. J'avais vraiment envie de donner des armes aux personnes qui regardaient des films pour pouvoir nommer ce qu'ils ressentaient face à un plan de fesses, par exemple. Et ça ne veut pas dire que le film est mauvais ou qu'il faut éradiquer tous les plans fesses. C'est vraiment pas ça. C'est juste d'avoir une autre grille de lecture.
Ouais, tout à fait. Mais moi, j'insiste bien. Votre propos est très nuancé, très complexe, très subtil. J'avais adoré ce livre pour cette raison. Mais en effet, c'est très, très intéressant ce que vous venez de dire. Le problème, c'est la paresse. Et c'est quand ça a l'air normal, alors que ça ne l'est pas. Mais par contre, ça pourrait être assumé. On pourrait dire, voilà, là, j'ai un plan avec un regard d'homme. Et c'est comme ça. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et justement, vous militez tout simplement pour que ce soit plus varié et que ce soit pas tout le temps le cas et qu'on soit sorti de l'apparente neutralité que vous appelez paresse.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que, par exemple, un cinéaste comme Kechiche, que je critique par ailleurs dans le film, m'intéresse beaucoup plus que d'autres cinéastes qui ne pensent pas, en fait, à leur regard. C'est-à-dire d'avoir un regard voyeuriste et de l'assumer, et que ce soit son geste de mise en scène. Ça, je trouve ça passionnant. Je veux dire, je suis pas pour boycotter ces films-là. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand une comédienne ne sait pas que son sexe est filmé en extrême gros plan pendant plusieurs minutes. Ça s'appelle de la violence. Ouais. Et ça, par contre, je suis vraiment contre, et du coup, je n'ai pas envie que ce film sorte. Alors, c'est deux choses très différentes.
Je comprends très bien. Concrètement, il y a un film, il y a une scène dans Mektoub My Love, donc de Kechiche aussi, en boîte de nuit, qui a fait beaucoup parler, où il y a trois jeunes filles qui dansent, enfin il n'y a pas que ça dans la scène, mais on filme beaucoup, beaucoup leurs trois shorts en jean de dos, quoi. Là, vous le lisez comment, cette scène-là?
Alors, Mektoub My Love 2, que j'ai vu à Cannes et qui n'est pas sorti, moi, ça, les gros plans sur les fesses de la part de Kechiche, je veux dire, ça s'inscrit dans son regard, dans sa mise en scène, dans sa patte. C'est vraiment pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, par exemple, c'est de ne pas dire à la comédienne concernée la manière dont elle est filmée dans un plan extrêmement frontale, dans une scène de cunnilingus extrêmement longue. Et là, je me pose vraiment la question du pouvoir du réalisateur et de l'omniscience de son regard. Parce que c'est un réalisateur qui tourne à plusieurs caméras en permanence, donc les comédiennes ne savent pas comment elles sont filmées. Et ça, je trouve ça beaucoup plus dérangeant sur la fabrication de ces images et sur la violence, en fait, qu'elles génèrent, je pense, de part et d'autre de l'écran.
Et puis sur le problème du consentement, évidemment.
Oui.
On va écouter Adèle Exarchopoulos qui parle justement de ce tournage.
Abdel, il est dur. Abdel, il peut être dans la souffrance. Abdel, il nous a fait du mal parfois psychologiquement parce qu'il aime être travaillé dans l'épuisement. Il aime qu'il a besoin que tu t'abandonnes, il a besoin d'un lâcher prise. Quand tu te perds, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ouais, j'ai envie de me casser parce que je souffre. Puis il y avait d'autres choses aussi. Le sujet, il était douloureux. Porter une histoire, une passion, ça implique des choses douloureuses. Mais c'est vrai qu'on a souffert.
Adèle Kechiche dit aujourd'hui qu'il a été sali, qu'il aimerait que le film ne sorte pas, qu'il passe pour un pervers, qu'on a l'impression qu'il vous a caressé. Est-ce que c'est un pervers ?
Non. Non, c'est vraiment pas le mot. Pour moi, c'est un réalisateur dur, c'est un génie qui est torturé. Et des fois, c'est dur de le suivre, Abdel. Mais ça, lui aussi, il a souffert sur ce film. Il a souffert sur ce film, tout le monde a un peu souffert sur ce film.
Alors Iris Bray, vous qui, depuis ces livres, êtes passée à la réalisation, vous avez fait la mini-série Split, on va en parler après, mais justement, dans votre travail, vous avez pris des gens qui surveillent ces questions-là, des inspecteurs...
Pardon, c'est quoi c'est intéressant, voilà. C'est là-dessus, en fait, c'est des coordinatrices d'intimité, et surtout, elles ne sont pas là pour inspecter mon travail. Elles sont là pour... C'est-à-dire, c'est comme un régleur cascade. Quand on fait une cascade avec une cascadeuse, il y a un régleur cascade qui est là pour s'assurer de la sécurité de la personne. C'est la même chose, la coordinatrice d'intimité, elle est là pour s'assurer que les scènes sont tournées en ne mettant pas en danger les personnes qui les font.
C'est mais justement, du coup, est-ce que c'est pas un peu problématique quand même ce que dit Adèle Exarchopoulos, cette idée qu'il faudrait vivre la souffrance? Est-ce que c'est pas aussi encore un délire de regard masculin de dire voilà, il faut souffrir pour que ça ait l'air vrai? Est-ce qu'on peut pas aussi sortir de ça?
Ah, moi, je milite vraiment pour sortir de ça. Après, je pense qu'il y a vraiment eu une construction qui est un peu différente du regard masculin, qui est celui du génie masculin et de la souffrance pour produire une œuvre d'art, du fait que le génie masculin peut être violent pour arriver à ses fins. Il y a des femmes réalisatrices aussi qui le sont. Et donc ça, c'est vraiment quasiment un autre mythe auquel on peut s'attaquer.
Mais je crois qu'il est temps.
Il est vraiment temps, mais hier je voyais un documentaire sur Nastassia Kinski qui le disait d'elle-même, qui disait au début je pensais qu'il fallait que je souffre pour être bonne à l'écran, et depuis Tess de Polanski, j'ai décidé de travailler différemment et j'arrive aux mêmes états sans passer forcément par la souffrance. Et je pense que c'est comment est-ce qu'on travaille avec les comédiens et les comédiennes, dans quel état en fait on a envie qu'ils arrivent, et comment est-ce qu'on produit des images. Tout ça c'est vraiment des questions de fabrication et de éthiquement, où on se place pour arriver à une image. Et qu'est-ce qui est plus important ?
Je veux dire, c'est une question éthique, d'ailleurs.
Absolument.
Ouais, éthique et esthétique.
Bien sûr. Et les deux vont ensemble, en fait. Et c'est vrai qu'en me retrouvant dans la position de réalisatrice, moi-même, parfois, j'ai été totalement dépassée par mon désir d'arriver à une image au détriment de tout et d'avoir besoin des personnes autour de moi en me disant, est-ce que vraiment ça vaut la peine de mettre d'autres personnes dans des états émotionnels de violence, de tristesse, pour arriver à ton image ?
Bien sûr.
Et au final, moi, ma réponse, c'est non.
Eh ben, j'adore votre réponse. D'ailleurs, c'est aussi une question qui a traversé tout le mouvement de l'autofiction. On a vu, quand l'autofiction est née, des gens, franchement, qui n'avaient pas un talent immense, qui étaient prêts à détruire n'importe qui pour faire une bonne page ou un bon paragraphe. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut tourner cette page. Et ce problème-là, c'est aussi notre sujet, changer de regard. Changer de regard sur le génie, qu'il soit féminin ou masculin, au nom de quoi l'œuvre d'art justifierait-elle de blesser, d'offenser, de dominer, d'écraser? Et j'ai l'impression que l'heure est venue d'en finir une fois pour toutes, en fait, avec la séparation, en quelque sorte, de l'homme et de la femme et de l'artiste, que c'est le sujet.
Oui, et puis c'est aussi repenser, en fait, quand on parle de morale, on repensait l'échelle, en fait. C'est-à-dire que le care a toujours été mis en bas. Et si on met l'éthique du care plus haut sur l'échelle, ce qui est vraiment contre, enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'on nous enseigne quand on fait du cinéma, c'est comme si le soin était tout en bas de l'échelle et que tout en haut, il y avait le pouvoir. Et ben, en fait, si on remet du soin à un endroit où c'est difficile d'être là-dedans parce que chaque minute, c'est de l'argent. Et donc, on est vraiment dans un système capitaliste et d'une machine à broyer qui est extrêmement forte. Mais si on s'arrête et qu'on le fait de manière collective, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une seule personne qui peut insuffler ça sur un plateau, eh bien, je trouve que ça change vraiment la manière dont on invente les images. Et ça ne veut pas dire qu'on travaille moins bien, ça veut juste dire qu'on travaille plus ensemble.
Et surtout, parce que le problème de ce que les gens vont entendre dans l'émission, certains vont dire qu'on est là pour mettre de la moraline dans l'art, pour moraliser l'art. Mais ce n'est pas ça qu'on dit, enfin, si vous êtes d'accord. On veut juste que le critère éthique soit là parmi d'autres.
Absolument.
Ça ne va pas tout changer. Et c'est complètement dingue. Aujourd'hui, dès qu'on parle de care, de prendre soin, eh ben, tous les vieux réacs ou les conservateurs arrivent « Mais non, l'œuvre d'art devrait primer. » Mais quand on dit, comme vous le dites très bien, qu'il faut intégrer du care ou du soin dans l'art, c'est pas pour moraliser l'art non plus.
Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... C'est comme s'il y avait... On ne faisait plus la distinction entre morale et moralisateur. C'est deux choses très différentes. Moi, je ne suis pas en train de militer pour que des bonnes œuvres où il y a des bons points. Ce n'est pas du tout ça. C'est de réfléchir à la manière dont on fabrique les œuvres et de penser aux personnes qui travaillent avec nous. Ce n'est pas parce qu'on a une vision que les personnes doivent se soumettre en fait, à notre regard. Et c'est de repenser l'art, surtout le cinéma, qui est pour le coup vraiment un art collectif, de penser qu'on fait ça en fait comme œuvre collective. The look of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look. Just words can never say. What my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you,
Dusty Springfield, The Look of Love.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Je peux t'embrasser ?
Oui. Quand tu quittes un mec pour une meuf, tu quittes l'hétérosexualité. Est-ce que t'es prête à en être ?
J'ai oublié pendant une minute que t'étais avec Nathan.
T'es prête ?
Ouais. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Ça m'est tombé dessus. J'ai envie de le vivre.
Nous sommes toujours avec Iris Bray sous le soleil de Platon. Iris, nous venons d'écouter la bande-annonce de votre mini-série Split, car, ce qu'on a annoncé tout à l'heure, après avoir été journaliste, critique de cinéma, autrice, prof de fac aussi sur le genre au cinéma, dans la branche, je crois, française de l'Université de Californie,
oui.
Ça, eh bien, vous êtes passé de l'autre côté de la caméra et vous avez réalisé cette mini-série Split, disponible sur France Télévisions, alors de 22h à 5h du matin uniquement, je ne sais pas pourquoi.
Non, que l'épisode 4, parce qu'il y a une scène de sexe trop explicite.
Ah oui ?
Selon les standards de la chaîne.
Et qui avec quel regard alors ?
Ah ben ça c'est vraiment intéressant, je pense qu'on n'a pas l'habitude de représenter les sexualités lesbiennes et le plaisir des femmes, et c'est vrai que j'ai voulu faire une série avec plusieurs scènes de sexe, et que quand j'ai livré la première version des épisodes, ils étaient tous en moins de 16 ans, et on m'a demandé de raccourcir les orgasmes féminins pour passer en moins de 12 ans, et il y a une scène de pénétration qui est restée en moins de 16 ans, donc ça veut dire que l'épisode 4 n'est disponible qu'entre 22h et 5h du matin.
Raccourcir les orgasmes féminins,
oui.
Mais pas les masculins.
Bah, il n'y en avait pas des masculins dans la série, donc c'était plus facile.
Oui, mais je veux dire comme par hasard.
Oui, bah bien sûr, je pense qu'en fait, c'est très intéressant de voir comment notre érotisme est codifié, c'est-à-dire que la pornographie est tellement omniprésente dans notre monde que d'essayer de montrer les choses différemment et de les montrer du point de vue féminin et de montrer du plaisir féminin reste une des choses les plus taboues dans notre société.
Oui, vous en parliez d'ailleurs déjà très bien il y a longtemps dans votre livre « Sex and the Series » aux éditions de L'Olivier. Et il y avait un chapitre sur l'orgasme, oui. Et notamment comment on n'a que très récemment une image en 3D du clitoris, et même comment c'est mal montré au cinéma. On voit des mains qui tiennent un drap, on voit des yeux qui se ferment, mais pas grand-chose au fond. Mm-hmm. Et donc là, ce que j'ai aimé dans cette mini-série aussi, c'est la notion de joie, au fond, mm-hmm. et notamment la joie d'être lesbienne. Peut-être ça aussi, c'est un changement de regard.
Oui, c'est vraiment, je pense, de dire que ça peut être une expérience heureuse, je pense, c'est vraiment tellement important, en fait, parce que on a tellement eu dans notre culture populaire des a priori et une pensée négative autour du lesbianisme, c'est-à-dire que si quelqu'un fait son coming out, c'est comme si c'était une mauvaise nouvelle. Ouais. J'ai voulu réfléchir à cette question en me disant, et si c'était la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver ? Et je pense que de montrer que le lesbianisme peut être une joie et une libération et un acte militant. En fait, et c'était en lisant le livre d'Alice Coffin aussi, ouais. que j'ai eu plusieurs déclics et que j'ai essayé de mettre en scène en fait une femme qui sort de l'hétérosexualité et qui évidemment perd un certain nombre de privilèges et de choses en sortant de l'hétérosexualité, mais qui découvre aussi tellement d'autres choses et une autre manière de vivre sa vie, ses amours, ses amitiés qui lui apportent beaucoup de joie.
Qu'est-ce qu'elle perd comme privilège en quittant l'hétérosexualité ?
On perd beaucoup de privilèges à tellement de niveaux. On perd un rapport à sa famille, on perd une certaine, je dirais, un capital social, on perd de l'argent, on peut pas trouver d'appartement. Enfin, très concrètement, il se passe plein de choses dans sa vie quand on sort de l'hétérosexualité et que le regard du monde change sur vous parce que vous êtes la marge et que vous menacez aussi un ordre dominant. Et ça se fait de manière explicite ou implicite, de manière consciente ou inconsciente. Mais oui, les lesbiennes sont une menace à l'ordre patriarcal.
Et vous avez sorti, il y a quelques semaines, ce très joli livre pour enfants qui est un peu un écho à ce que vous venez de dire, puisqu'il porte pour titre « Quelle joie ?». Et moi, j'aime beaucoup cette notion de joie, je pense qu'elle est très importante aujourd'hui. De vous, Iris Bray, et de Anna Wanda Goguzei. Et c'est l'histoire d'une mère qui parle à son enfant, mmh. et notamment qui lui raconte la joie que c'est d'être avec une autre femme. Mmh. Et il y a un très joli jeu que vous appelez le jeu de la joie, mmh. et ça se répond sur deux pages. Il y a à chaque fois l'enfant qui dit ce qu'il met en joie, et la mère qui dit ce qui la met en joie.
Oui, j'avais aussi envie de proposer une autre vision, en fait, de la garde alternée, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Voilà, le divorce, c'est aussi censé être quelque chose d'extrêmement sombre, et ça peut l'être, mais ça peut aussi être réjouissant d'avoir son enfant qu'une semaine sur deux. Et j'ai écrit le livre avec mon fils Otto, qui a 5 ans, parce que je suis partie d'une phrase que lui m'a dite, c'est-à-dire que lui m'a dit qu'il était heureux de me voir qu'une semaine sur deux.
Mais oui.
Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui te rend heureux quand tu es avec moi ? Qu'est-ce qui te rend joyeux quand tu n'es pas avec moi ? Et c'était important pour moi de lui dire aussi que j'arrivais à être joyeuse sans lui. Et ça ne veut pas dire que je l'aime moins, ça veut juste dire que nos existences peuvent être tournées vers autre chose que juste ce rapport mère-fils, et que la vie, même si on est séparé, même si on sort de l'hétérosexualité, même si on est confronté à des choses difficiles, on peut se battre avec la joie, et c'est une émotion qu'il faut aller chercher, qu'il faut convoquer. C'est-à-dire que la joie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose où il faut être actif. Et je pense que beaucoup de femmes, après la maternité, après avoir eu un enfant, ont du mal à reconvoquer cette émotion. Et il faut aller à la reconquête de la joie.
C'est très touchant. Je vais lire d'ailleurs le début. Je nuancerai un tout petit peu votre idée de... Je pense qu'il faut certes la conquérir et travailler pour, mais aussi savoir parfois juste l'accueillir quand elle se présente. Je pense que c'est les deux. Mais bon, c'est pas le sujet. Je vous lis parce que c'est le tout début. Et vous allez voir, c'est très beau d'aimer comme ça. Maman, est-ce que tu es triste quand je ne suis pas là ? Triste et pas triste. Et toi ? Pas triste. je suis content d'entendre ça. Car tu sais, quand on s'est séparés, ton papa et moi, j'avais peur que tu ne sois plus jamais heureux à cause de nous. Que tu sois toujours en manque de l'un ou de l'autre. Que tu regardes avec envie tes copines et tes copains dont les parents sont encore ensemble. Et puis un jour, tu m'as dit que tu avais deux fois plus de tout. Deux vies, deux maisons, deux doudous, deux gâteaux d'anniversaire, deux brosses à dents, deux parents très différents. Et que ça, c'était la joie. Alors, j'ai laissé mes inquiétudes, mes culpabilités, et j'ai compris que pour moi aussi, c'était la joie, ces semaines avec toi et ces semaines sans toi. Et ça, c'est beau, de réussir à dire tôt à son enfant que même les semaines sans lui, c'est la joie. Alors, je reviens à votre mini-série, Split, parce que, donc c'est de la même façon que dans ce livre pour enfants, c'est une femme qui quitte un homme pour aller avec une femme. Mais malgré tout, il y a des points communs dans l'amour. Et notamment, il y a un moment où vous faites dire à un personnage, aimer, c'est se sentir sans cesse abandonné. Mmh. Ça m'a un peu surpris comme phrase.
C'est une phrase qui vient de Angelica Lidl. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. C'est une phrase que j'ai lue d'elle et qui est restée avec moi quand j'ai écrit cette série, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste là-dedans, d'accepter que l'autre parte.
Mais vous ne croyez pas que aimer, c'est plutôt se sentir abandonnable tout le temps, mais pas abandonné?
Peut-être un peu des deux, mais je pense que la parentalité, c'est aussi accepter ça, que l'enfant puisse nous abandonner pour vivre sa vie. Et je crois que c'est peut-être ce qui m'a le plus troublée en devenant mère, c'est-à-dire de comprendre que l'enfant n'est pas ma possession, n'est pas mon objet. Et en ayant travaillé aussi beaucoup sur l'inceste, de vraiment comprendre qu'il faut aussi politiser l'enfance et comprendre que ce sont des sujets pensants. Et ça va un peu à contre-courant de toutes les images qu'on a et de ce que on nous enseigne, en fait. Donc oui, je trouve que en amour en général, que ce soit l'amour filial ou l'amour romantique, il y a cette question de l'abandon.
Il faudrait aimer sans posséder?
C'est difficile, mais je pense que c'est une des grandes questions contemporaines qu'on traverse.
Et c'est aussi notre sujet, parce que pour changer de regard, il faut changer les mots. Il ne faut plus dire, dans ce cas, « mon bébé ». Il ne faut plus dire « mon amour ».
Oui, moi j'appelle auto l'enfant, par exemple.
Voilà, mais je le sais. Et c'est ça qui est... Mais c'est fort. Et d'ailleurs, dans la méthode socratique, pour changer de regard, Socrate dit, enfin Platon fait dire à Socrate, c'est dur de se défaire de ses opinions premières, parce que les opinions sont du genre du cri. Donc c'est violent, c'est là, ça nous tient. Et vous, vous êtes très douce, vous avez de la douceur dans votre écriture, dans votre militantisme aussi, de la joie du coup. Et je crois que c'est important, parce que sans douceur, on n'arrive pas à se débarrasser de ce qui crie. Et si on fait cri contre cri, ça ne marchera pas. Donc, merci pour cette douceur. Et on va écouter maintenant un homme, d'ailleurs, à la voix très douce, Bertrand Belin.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert, j'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emportée dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon, il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole, lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
C'était Bertrand Belin, l'inconnu en personne.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Iris Bray et c'est passionnant. On parle du regard féminin au cinéma, du regard masculin. On parle de votre petit livre pour enfants qui s'appelle « Quelle joie !» où vous montrez qu'on peut être joyeuse d'être lesbienne, d'avoir une femme et d'avoir un enfant, un petit garçon qui adore cette nouvelle situation. Voilà aussi un changement de regard. Pour revenir sur notre question de philo, comment on change de regard? Vous nous avez répondu en comprenant que les images sont politiques, au fond, que les images portent des visions du monde. Vous nous avez répondu en militant pour la douceur et la joie. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées comme ça, qui pourraient nous aider à changer de regard, au fond?
Oui, il y a un concept que j'ai lu dans le livre de Azélie Fayol autour du regard tendre. Et je pense que c'est aussi une bonne manière de penser la tendresse dans la manière dont on fabrique les images et dont les images nous regardent. Je pense que c'est vraiment un point aussi important que j'essayais de faire dans le regard féminin, c'est de penser à la place des spectateurs et des spectatrices.
Oui. Le regard informé, mais le regard qui peut aussi exiger autre chose et puis voir autrement.
Oui, et puis je pense qu'on sent quand une œuvre nous regarde, non ? Quand elle n'est pas autoréflexive, quand on est inclus dans la pensée du cinéaste ou de la cinéaste.
Vous voulez dire quand on a une place ?
Oui, quand on a une place et que notre corps aussi a une place face aux images. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Mais pour moi, l'expérience corporelle, la corporéité des spectateurs et des spectatrices, c'est aussi essentiel pour repenser le cinéma et le regard.
Vous voudriez dire qu'un bon film, c'est ce qui nous fait vivre une expérience corporelle de ce type?
Moi, je pense qu'un bon film, c'est un film poreux. Je pense que c'est quand l'écran de la salle de cinéma devient comme une peau et qu'on ressent des choses et que le film continue à cheminer en nous. Moi, c'est ça, les films qui m'intéressent.
Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes critique de cinéma, professeur de cinéma à la fac, et peut-être, c'est ça aussi, c'est un autre regard sur le regard masculin. Le problème du regard masculin, c'est pas simplement que la moitié de l'humanité, on sait pas comment elle pense, comment elle voit et comment elle ressent, mais c'est aussi que ça fait des œuvres plus pauvres, tout simplement, donc moins intéressantes.
Oui, parce que le réflexe, en fait, de filmer les fesses de femmes pour dire que, par exemple, ce corps-là est désirable, ça appauvrit le langage cinématographique, ça appauvrit la mise en scène. Tant que c'est un geste revendiqué, moi, je trouve que c'est intéressant. À partir du moment où c'est juste un réflexe et que c'est du coup un peu paresseux, je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut aller débroussailler.
Vous avez dit tout à l'heure que les images n'étaient jamais neutres, qu'elles étaient politiques. On va écouter à ce sujet Georges Didi Huberman.
L'imagination, ce n'est absolument pas ce que souvent on dit, c'est-à-dire la fantaisie personnelle, ou le délire, ou l'identification. Non, pas du tout. L'imagination, et c'est Kant qui l'a dit de façon extrêmement claire, c'est la faculté qui nous permet de passer du monde sensible au monde intelligible. Donc, l'image nous permet de comprendre le monde. Et Hannah Arendt a renchéri en disant « Eh bien, l'imagination, c'est la première faculté politique. Pourquoi ?» Ben, parce que si je veux faire de la politique, il faut d'abord que je m'imagine dans la position éventuellement de mon adversaire. Si je suis complètement dans ma position, si j'arrive pas à imaginer ce que pense l'autre, ce que ferait l'autre, je fais pas de politique.
Oui, bien sûr, l'expérience aussi de l'altérité. Je pense qu'on a toutes et tous grandi en fait dans un monde qui nous proposait des visions d'hommes. Et la question, c'est quelles sont les images qui nous manquent, quels sont les récits qui nous manquent, et les récits de femmes, mais aussi des personnes minorisées, en fait. Oui. On n'a pas accès à ce que ça veut dire que d'être dans leur corps. Et par exemple, un film comme L'histoire de Souleymane, c'est intéressant le succès qu'il a en salle, parce que tout d'un coup, les personnes ressentent ce que ce héros traverse. Et ça change notre rapport au monde. Et je trouve que le cinéma, c'est vraiment une œuvre et un art passionnant pour ça, pour cette capacité à nous déplacer. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de me dire que c'est de déplacer les gens.
Nous décentrer de nous-mêmes ?
Oui, mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose de physique. Je pense que c'est arriver à trouver une autre place, à changer notre position physique face à une œuvre.
Donc vous avez vraiment, comme la jeune fille qui n'était pas vraiment vous du portrait du début de l'émission, une approche phénoménologique, c'est-à-dire c'est un courant de pensée dans lequel la compréhension part de la perception sensible et sensuelle du monde.
Absolument. Et je pense que pour moi, ça a été vraiment de découvrir ça, ça a été très important parce que dans mes études, l'outil utilisé était majoritairement la grille psychanalytique, en fait, de compréhension, qui est celle de Laura Mulvey.
Oui.
Et de passer, en fait, du côté de la phénoménologie, ça permet, je trouve, de penser le cinéma très différemment. Et d'ailleurs, Stanley Cavell le fait aussi, en pensant l'expérience. Mmh. Il dit que le cinéma, une œuvre, c'est quelque chose qui doit se voir et se revoir, et à chaque visionnage, en fait, on a une expérience différente avec un film. Lui, il défend le concept de la rencontre heureuse, en fait, entre un spectateur et une œuvre. Et cette rencontre, parfois, ça n'est pas immédiate. Parfois, il faut du temps pour ça. Et je pense que c'est important aussi de militer pour ça. C'est de dire que on peut revoir les œuvres aujourd'hui, après MeToo, et avoir un nouveau regard. Mais ça ne veut pas dire que les œuvres d'avant sont détruites. Ça veut dire que nous, on a été transformés par quelque chose. Et qu'il va y avoir d'autres rencontres heureuses entre nous et des œuvres. Et que c'est vraiment important de dire que c'est pas du révisionnisme, que c'est pas une manière d'enfermer des œuvres ou de les faire disparaître. C'est se poser la question de toutes les œuvres qu'on n'a pas encore vues et qui ont disparu parce qu'elles étaient faites par des femmes.
Oui, ça, vous en parlez aussi très bien dans Le Regard Féminin. De toute façon, en aucun cas, vous ne militez pour effacer, pour rayer de l'histoire du cinéma, ne serait-ce que parce qu'il faut bien garder les traces de ce regard pour en changer. Autrement, si on n'a pas d'archivage, c'est ce que dit très bien Laure Murat dans son dernier livre, qui s'appelle « Toutes les époques sont dégueulasses ». Elle dit que, au fond, si on efface ce passé, eh bien, c'est comme si les opprimés ont effacé l'histoire de leur oppression. Et ils vont manquer d'armes pour aller vers l'avenir, finalement.
Bien sûr, je suis totalement d'accord avec Laure Murat sur ce point-là. Et je pense que ça nous permet aussi de se poser la question de où sont les œuvres qui racontent différemment. Et oui, ça demande un peu plus de recherche. Ça ouvre, en fait, les imaginaires aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres choses qui me donnent du plaisir, il y a d'autres films qui me parlent à moi. Et c'est en fait quelque chose d'extrêmement joyeux pour en revenir à la joie.
Et d'ailleurs, pour en revenir à la joie, vous militez aussi pour un changement de regard et vous défendez les happy ends, comme le happy gaze.
Oui, je pense que c'est notamment dans les histoires lesbiennes. Je trouve que de ne pas avoir des fins tragiques, de ne pas avoir des personnages de lesbiennes qui meurent ou qui vivent mal leurs amours ou qui sont...
Comme chez Virginie Despentes, quoi.
Oui, mais même au-delà, en fait, même aux États-Unis, il y a vraiment ce qu'on appelle un trope de bury my gaze, c'est-à-dire que dès qu'il y a un personnage de lesbienne dans une série, au bout d'un moment, elle meurt ou elle est tuée.
Thelma et Louise, c'est pareil. Hein.
Oui, bah bien sûr. Ouais. Enfin, et puis il y a cette idée de la punition, c'est-à-dire qu'une femme lesbienne, à la fin, doit être punie d'une manière ou d'une autre par la société.
Même Emilia Pérez, d'ailleurs.
Bien, bah, évidemment.
Ouais. Ouais.
Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire qu'on peut avoir d'autres dénouements et des dénouements heureux et qu'en fait, ils nous en manque vraiment beaucoup.
Vous savez, on est dans une émission qui s'appelle « Sous le soleil de Platon », donc on est obligé parfois de lui rendre hommage, et Platon a dit « Qui n'a jamais aimé ne peut philosopher ». Alors la phrase, elle est bizarre, mais en fait, elle veut dire que aimer, vraiment, c'est faire l'expérience de l'altérité. Quand on aime, on est deux. On aime je t'aime, c'est j'aime quelqu'un qui m'échappe, ce que vous avez dit aussi. Mmh. Et finalement, vous militez pour ça. L'expérience de l'altérité, être traversé par la perception qu'un autre corps que le mien, dans une autre histoire sociale, va avoir. Et au fond, c'est aussi de changer de regard sur l'amour, au fond.
Bien sûr. Sur l'amour, sur le désir et sur l'érotisme. Et se dire que la personne en face de nous a des choses à nous raconter, à nous dire, et que c'est cet échange-là, pour moi, qui est source d'érotisme. C'est pas regarder l'autre comme objet, comme on nous l'a beaucoup montré au cinéma.
Même si vous avez consenti à l'idée tout à l'heure qu'on pouvait aussi, au sein d'un regard complexe, l'objectiver un petit peu.
Oui, mais par exemple, c'est ce que Rebecca Zlotowski fait dans son cinéma. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait plein de films qui échappent aux notions de regard masculin et féminin. C'était... Quand j'ai voulu défricher ce concept-là, c'était à aucun moment pour enfermer les œuvres. C'était au contraire pour qu'on ait un autre concept pour réfléchir à ce qu'on voyait. Et il y a plein d'œuvres et de cinéastes qui vont bien au-delà ça, au-delà de ces deux concepts-là, bien et sûr. Qui nous permettent de repenser le cinéma autrement.
Et je précise bien sûr que dans votre livre, Le regard féminin, il y a cette présentation de beaucoup de réalisatrices, Chantal Akerman, Justine Trier et d'autres. Je rappelle que votre livre « Quelle joie » est sorti aux éditions La Ville brûle, ce très joli livre pour enfants qui vient de sortir. Je rappelle aussi votre livre « Sex and the Series » aux éditions de l'Olivier. Et je vous remercie de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Et pour vous remercier, je vais essayer de dégager la philosophie de la vie qui est la vôtre. Qu'on a entendu, alors c'est trop facile, mais ça fait du bien, parce que c'est pas tous les jours le cas. Philosophie de la douceur et de la joie, jusqu'au cœur du militantisme. Philosophie de l'expérience vécue, Stanley Cavell, Merleau-Ponty. L'expérience vécue, c'est à partir de ça. C'est se laisser traverser par la vie. Bien sûr, philosophie du cinéma, je crois que vous êtes en train d'écrire un film. Philosophie du cinéma comme expérience sensible. Et on a deviné que pour vous, peut-être, un bon film, c'est un film qui nous décentre, un film qui nous traverse en tant que corps, et qui permet surtout, enfin, d'accéder au point de vue de l'autre sans le réduire, sans le chosifier, sans non plus penser qu'on le comprend et qu'on le possède complètement. Merci beaucoup, Iris Bray. Cette émission a été préparée par Estelle Gapp, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale Valentine Chedebois, elle a été réalisée toujours aussi excellemment par Antoine Larcher, avec à la technique Thomas Allard. À demain.